Comme on l'a annoncé, mais nous sommes en compagnie de Murray Head. Plus besoin presque de présenter cet homme après plus de 30 ans de carrière partagée entre la musique et le cinéma. Plus d'une quinzaine d'albums, donc décidément des années bien remplies pour l'homme que beaucoup ont découvert avec la pièce « Say It Ain't So ». Et après avoir conquis le Québec dans les années 90 avec des premières compositions francophones, il nous revient en 2008 avec un nouvel opus alliant nouveautés et classiques. Rien n'est écrit. Et nous avons donc le plaisir de le recevoir avec nous ce matin pour en discuter. Murray Head, bonjour.
Bonjour.
Alors, d'ailleurs, en fait, justement, votre carrière partagée en différents médiums, donc musique, cinéma, comédie musicale, télévision, est-ce que vous avez un peu un côté touche-à-tout ou peut-être le désir un peu, justement, du défi de toucher un peu à tout?
Sûrement, Raymond, sûrement. C'est partie de la même chose, c'est tout à fait la même chose, c'est une façon d'exprimer. Si c'est le cinéma, si c'est un truc de jouer le rôle de quelqu'un, on essaie de trouver un scénario où les paroles sont suffisamment intéressantes et que ça raconte des choses qu'on croit soi-même, comme ça on peut rentrer dedans. Mais on est là pour quand je fais ça, j'aiguise ma capacité de communiquer et je l'utilise pour communiquer plus tard les choses que j'écris moi-même. Alors tout ça, c'est fait partie d'un système assez simple. Qu'on accumule pas mal d'informations. Je reçois, je suis très curieux, j'apprends, j'essaie d'apprendre tout. Chaque chose que j'aborde, c'est un peu comme ça pourrait être la dernière fois. Je suis là à Québec City, c'est la dernière fois que j'étais là et c'était autre chose complètement. Et là, il faut que je m'en profite dans tous les sens. Quand je rencontre des gens, me disent tu bavardes beaucoup, mais enfin, c'est une possibilité de communiquer avec les autres et apprendre des choses nouvelles. Ce qui est sûr, c'est que tout ça fait partie des essais exprimés, étant donné que toi ou moi, on reçoit beaucoup d'infos et on reçoit de plus en plus. La pire chose, c'est de devenir constipé mentalement. Alors, il faut trouver un moyen.
De se confiner à toujours la même chose.
Il faut trouver un moyen de sortir tout ça en même temps que ça rentre. Alors, il y a rien plus efficace que moi, je trouve ce qu'on fait en ce moment aussi important que les chansons que je chante ou les rôles que je joue. C'est la base, c'est de s'exprimer. Mmh. Et plutôt que ça, de communiquer, puisque ça, c'est de communiquer et de pouvoir poser à peu près la même question chaque fois. Est-ce que tu vois ça du même façon que moi, je le vois? Mm-hmm. Sinon, explique-moi ce que tu vois. Ça va être intéressant. Peut-être je vais apprendre quelque chose de nouveau, etc., etc. Mais qu'il y a un discours perpétuel.
Et j'imagine qu'avec le temps aussi, ça pourrait être intéressant pour vous de pouvoir discuter avec Murray Head en 1975 versus le Murray Head de 2008, les perspectives avec justement ce flot d'informations.
L'idée, c'est d'essayer d'être aussi honnête et être transparent qu'on n'est pas choqué par ce qu'on a avait dit quand j'étais plus jeune. J'ai tombé sur des choses, c'est vrai, qui ont été des quotes qui ont été tellement naïfs que ça me fait presque gerber parce que je faisais partie d'une génération quand même assez innocent, assez naïf. En même temps, rien n'est conclu. Cette naïveté, il y avait une beauté là-dedans, il y avait quelque chose qui permettait une liberté qu'on n'a plus aujourd'hui. N'oubliez pas que ma génération, c'est la dernière, a essayé de trouver, même si c'est gauche, maladroit, on a essayé de trouver un équilibre entre les valeurs spirituelles et les valeurs matérielles. Mmh. Et qu'en effet, très vite après, 10 ans plus tard, dans les années 70, on a abandonné le spirituel et on est rentré carrément dans le commerce. Et où j'espérais que mes enfants allaient protester contre ce qu'ils aimaient pas, qu'ils allaient prendre le relais de la génération précédente. Ils n'ont pas fait ça du tout. Ils ont devenu des bons petits consommateurs. Ils ont tous devenu des liseurs de labels. Ils s'en foutaient royalement du passé et du futur. Ils pensaient qu'à eux et tout ça. Et jusqu'au point qu'on a laissé se passer beaucoup de choses qui n'ont jamais dû être, jamais dû se passer. De l'avarice, de la rapacité, de des choses, mais vraiment qu'on n'a jamais accepté étant donné une génération avant. Et quelque part, on doit prendre le blâme parce qu'on a laissé tout ça se passer et que je me trouve devant les contemporains aujourd'hui dans les spectacles en train de dire on est toujours dangereux, n'oubliez pas.
L'homme est un loup pour l'homme un peu.
Ouais, on est là pour quand même, n'accepte pas qu'on nous met dans les pâtures, n'accepte pas ça parce que franchement, on a besoin de crier encore parce que sinon on va vraiment nous bouffer.
Et Murrayhead, l'industrie musicale, vous l'avez vu se développer aussi avec la rentrée des grandes compagnies de disques, etc. J'imagine que la manière de faire la musique et l'industrie de la musique a beaucoup changé aussi. Est-ce qu'on porte le même regard qu'on porte sur la société, on le porte aussi sur l'industrie musicale?
Le regard que j'ai, ça part du même endroit de où vous m'avez dit qu'est-ce que vous êtes. Vous êtes acteur, vous êtes chanteur. Vous êtes... C'est le fait que je fais plusieurs trucs. C'est pas vouloir être touche à tout, mais ça me donne la chance de prendre un recul sur tous ces métiers en me disant, pour trouver cet endroit où on n'a rien à perdre. Si ça marche pas dans un, on peut s'adapter et faire un autre. L'intelligence, c'est la capacité de s'adapter. Pour moi, j'ai fait aucun compromis dans ma vie. J'étais élevé par un homme qui vient de mourir derrière mon père, qui un de ses valeurs, ce qu'il m'a appris, c'est qu'il a jamais fait quelque chose pour de l'argent. Moi, je l'ai fait une fois, il faut toujours faire une bêtise une fois, mais il faisait rien pour l'argent, il faisait ce qui lui concernait. Par exemple, c'était un metteur en scène de films documentaires, il fallait que c'était un produit qu'il pouvait bouffer ou en profiter lui-même pour qu'il fasse un film autour. Il ne pourrait pas faire quelque chose, un pub ou un truc pour quelque chose pour qui il n'avait pas d'intérêt ni passion. L'industrie, on peut rien dire. On peut que le regarder comme elle a vécu. La seule chose qui m'encourage et qui me donne un petit sourire, c'est le fait qu'on a fait carrément le 360 degrés. J'ai commencé avec un orchestre en 60, 61, 62 en jouant dans les clubs. Là, on avait une répertoire des chansons des autres, mais on ajoutait quelques-uns qu'on écrivait nous-mêmes. Et on était ce qu'on appelait semi-pro, ça veut dire qu'on avait un boulot pendant la journée, on travaillait, on jouait la nuit. C'était pour la passion, on ne pouvait pas s'empêcher. La passion de musique était telle qu'on ne peut pas, il faut le faire. Il n'y avait pas de choix, on était forcé de le faire, parce que ça nous donnait tellement un tel rush. Et d'un coup, il venait un mec d'une compagnie de disques qui écoutait ce qu'on faisait. Il disait, tiens, il y a cette chanson-là, vous l'avez écrite vous-même. Oui, mais et ça vous gêne si on le met, ça nous intéresse de le faire à 45 tours. Ah, vas-y, on fait un 45 tours d'une chanson qui a déjà été bien rodée dans les spectacles. Elle avait trouvé sa propre maturité, elle avait sa place, quoi. Et après ça, 9 mois plus tard, on te proposait encore un autre 45 tours. Et peut-être un jour, dans le futur, on te proposait un album. On est arrivé de là avec... C'est les maisons disques, dans les fins des années 60, ils ont découvert qu'il y avait de l'argent à faire là-dedans. Avant, ils gagnaient leur argent avec le classique, le catalogue classique, c'était énorme. Il y avait choix de virtuoses, des conducteurs, de compositeurs, il y avait énormément de façons de gagner de l'argent là-dessus. Et d'un coup, ils se sont dit, ah, le pop music, ça gagne. Alors, ils se sont rendus compte 10 ans après que c'est vraiment mis en route, ce qui fait qu'on a eu le temps, ma génération a eu le temps d'évoluer en même temps que nos héros. Ça veut dire que les Beatles ont évolué en même temps que leurs fans. C'était ce qui nous a donné ça. C'était ça leur profondeur. Et d'un coup, en 71-72, le maison de disques commence à réaliser. C'est vraiment, il y a de l'argent là-dedans. Ce qui fait que 10 ans plus tard, ils ont fait amener les comptables. Et les comptables nous a rendus dans un état où on n'était que des chiffres plutôt que des noms et des artistes. Après ça, il y avait l'industrie de technologie qui nous a foutu tous les synthés du monde, qui faisait des bruits semblants. La lueur était à passer de l'écoute à faire soi-même. Et en plus... Moi, je me souviens de personne. Tous les noms qu'on nous donnait dans les fins des années 80 et tout ça, dans le drum and bass, dans le speed garage, tout ce qu'on écoutait dans les fins des années 80 et commençant les années 90, c'était des initiales. Moi, j'ai du mal à retenir les initiales. Vous, ici, vous êtes accoutumé avec les noms de radio et tout ça. Moi, ça ne me dit absolument rien. Ça dépersonnalise. Alors, on se trouve... Après tout ça, les maisons disques ne pouvaient pas... La raison que j'ai fait, par exemple, Starac ici, c'était pour en contraste avec le Starac en France, où c'est une machine cynique pour recycler les anciens tubes de, ou les anciennes chansons de Universal pour recycler le catalogue. C'est combine entre Universal et le maison de télé TF1 et tout ça. Mm-hmm. Et on fait, c'est comme un conveyor belt en français.
C'est le tapis roulant.
Tapis roulant humaine où le mec il a 3 semaines, 2 mois de gloire et après ça il faut qu'il se balaye pour le prochain Starac. Ici au moins il y a un truc de 3 ans entre les Starac et en plus ça fait partie de quelque chose, ça fait partie de la patrimoine. Vous avez eu des concours de chansons dans les bleds depuis 100 ans ici, alors c'est tout à fait raisonnable. Alors ça c'est pour dire que la différence entre quelque chose qui fait ça avec le public et quelque chose qui en profite sur le public. Alors les maisons de disques ont tellement profité là-dessus que finalement ils sont en train d'écrouler partout parce qu'ils savent pas écouter, ils savent pas, tout est fait par comité, ils savent pas ce qui est quelque chose de bien, de nouveau et tout ça. Et je vois tout ça passer à un tel point que tout ce qui nous reste pour faire de l'argent et pour gagner nos vies, c'est comme c'était en 1961. On fait des spectacles.
Vous avez fait un album, les pièces sont en disque et dans le fond, on les découvre, on les promouvoie dans le fond principalement autour
ça, c'est
de
fini.
L'album. Mais dans le fond, l'intérêt, c'est le spectacle. Dans le fond, c'est de pouvoir avoir.
Le fond maintenant, c'est on va voir le mec. On s'en fout de ses anciennes choses. Ce qu'on veut en plus, c'est entendre ses anciennes. Ils sont pas là pour écouter les nouveaux. Mm-hmm. Moi, le concert le plus bizarre que j'ai jamais vu, c'était le jour que Elton John se croyait assez fort pour jouer que son nouveau album. Et c'était en même temps, il y avait après lui ou avant lui, il y avait les Américains, c'est quoi Pet Sounds? Beach Boys.
Beach Boys.
Et ils avaient les Beach Boys qui revenaient alors, et eux ils ont fait leur truc, et ça fait vraiment exciter le public. Et quand Elton a joué ces morceaux que personne ne connaissait, il y avait une silence dur. Non, le spectacle a toujours été le spectacle, la façon de voir un mec qui chante et de le sentir, un échange d'énergie. C'est pas pour promouvoir un disque. Le disque, ça doit être quelque chose qui sort de spectacle. C'est pas l'inverse. On s'en tape des ventes de disques.
Et dans ce contexte-là, vous offrez justement un nouvel album. Comment un peu on l'intègre là-dedans? Est-ce que c'est un petit plaisir en à côté? Si on aime Red, on se dit, OK,
je suis là parce que j'ai fait un album. Mais par hasard, il y a des acheteurs. On va le lancer. C'est la façon de me connaître. C'est une carte de visite. C'est tout. Mais je ne suis pas là pour promouvoir ça. Je suis là pour vous dire que moi, je m'appelle Muriel. Je pense comme ça. Et je ne suis là, pas là, comme une chaîne de mecs pour dire ça, c'est mon album. J'ai chanté celle-là. J'ai fait ça dans le studio. Oui, parce que franchement, on s'en tape.
C'est que d'une certaine façon, si on n'en vient pas à casser ce rythme-là, éventuellement, ça va se perpétuer. Alors, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un se dise OK, assez l'industrie, c'est le plaisir de la musique au bout du compte.
Mais on n'a pas besoin de le dire parce que l'industrie est en train de se bouffer elle-même. C'est fini, les disques, c'est fini. Ils ont imaginé que ça va être fait avec les downloads, avec les téléchargements. C'est un désastre, un vrai désastre. Il y aura un retour à des gens qui ont besoin de matière dans leurs mains. Ils veulent toucher. C'est la tactilité, ça ne part jamais. Le fait qu'on a parti de tout ce qui se passait dans le synthé et dans le mixing et tout ça, au moment qu'un enfant aujourd'hui entend pour la première fois un violoncelle ou la batterie, la peau ou le bois d'un instrument, il repart dans l'acoustique. On est dans une époque acoustique. On n'a jamais cherché. C'est pas un truc d'essayer de vendre l'acoustique. C'était devenu parce que, en plus, c'est quelque part là-dedans, il y a une saineté. Moi, quand j'ai commencé, il y avait quand même le mouvement électrique et tout ça, mais on n'avait pas l'argent pour un guitare électrique. On était tous forcés de jouer les guitares espagnoles acoustiques. Et il y avait le folk blues qui est sorti de ça.
Et en même temps, en fait, quand on compose une pièce, justement, quand on la propose, si on n'a pas le test devant public, on ne sait pas la réception que la pièce va avoir. Elle a besoin
encore,
de vivre,
je m'en tape. Ce que j'écris, c'est les bouteilles, c'est les messages dans les bouteilles, on les lance. Et s'il y a quelqu'un qui le prend, le besoin de ça, c'est qu'il dit putain, moi j'ai vécu la même chose là, c'est bizarre, t'as bien écrit, t'as arrivé à cerner ce que j'ai vécu, et tout de suite je sais que je suis pas fou, parce que lui il a vécu la même expérience, et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin de savoir l'opinion de l'autre, on a besoin de savoir ce qu'il a vécu, si on est complètement fou dans notre petit monde, parce que
On n'a plus les voisins. Les voisins, c'est les putains de feuilletons à la maison. On regarde les gens dans les feuilletons comme si c'est les voisins. On ne parle plus avec le voisin à côté. On a trop peur. Alors, on a besoin tout le temps de savoir comment tu penses, toi. C'est pour ça que je dis que pour moi, le radio ici, c'est aussi important que... Il y a des phénomènes. On parle la même langue, mais on peut parler de la loi. Si on parle d'un contrat, il faut... Quand on amène un contrat américain en Angleterre, il faut qu'il y ait quelqu'un pour le traduire. Quand on renvoie la réponse anglaise aux Américains, il faut qu'il y ait quelqu'un américain pour traduire le contrat. C'est dans la même langue, mais c'est ailleurs, c'est différent. Les besoins sont différents. Et c'est clair que on a besoin de communiquer le maximum que possible. Le net a aidé énormément, mais pour beaucoup de gens, c'est aussi une fausse sécurité où des gens disent bah, si jamais j'ai besoin de savoir, je le trouverai. Ça leur permet une lâcheté ou une feignance parce qu'ils ne vont pas checker, parce qu'ils savent qu'il y a toujours là et si vraiment il y a un besoin. Alors, je ne sais pas, et en plus, on ne peut pas encourager de mettre la vie dans un écran parce que tout le monde aurait des dos on va évoluer avec des énormes doigts ou des puces et des petits pieds, quoi.
Il y a beaucoup de questions, disons, à se poser autour de la période actuelle, ouais. Au bout du compte, et c'est important, en fait, de les soulever. Alors, des réflexions qu'on lance comme ça.
Comme le fait que René ou Guy risquent d'acheter les Canadiens ou...
disons que je les mets différemment sur la chaîne de l'importance.
Que Markov et Schneider ne sont pas là et ils ont perdu les deux dernières fois. Non, oui, vas-y, parle-moi.
J'allais simplement vous dire merci en fait de nous apporter ces questions-là ce matin. Muriel, merci beaucoup. Peut-être que je vous laisserai le mot de la fin, quelques phrases pour Claire, pour terminer l'entrevue. C'est une pensée sur laquelle nous laisser.
On essaie d'écouter le moins que possible, de rester qui on est soi-même, de ce que nous on a. Heureusement, on peut râler, mais on est l'effet de l'austérité qui va nous bercer tous maintenant, d'une manière ou d'une autre, les imports qui va commencer à reculer, le fait qu'on aura besoin de manger et faire pousser des choses à manger chez soi, que s'il y a une vraie chose qui approche, une nouvelle vie qui nous attend, qu'il faut qu'on aborde le plus vite que possible. L'intelligence, c'est la capacité d'adapter. Tout ce que je peux dire, c'est que on doit pas être peureux, que c'est bien, parce que je connais comment ces valeurs étaient. J'ai vécu un peu ça dans les années 60-70 et qu'ils vont revenir. Et que, pour moi, j'adore, parce que les priorités seront différentes dans la vie. Si on a le choix d'acheter de l'essence ou un disque, on risque d'acheter de l'essence. Ça, c'est comme ça. Mais je suis toujours prêt à passer chez vous. Moi, je n'ai jamais oublié la mentalité que je fais la manche. J'arrive dans une bled, j'ai un chapeau, je le mets par terre, je le joue. Et si quelqu'un me propose quelque chose à manger, c'est le bonus, même un lit. Et c'est ça. Et on ne doit jamais, jamais oublier ça. Et ce qui est triste, c'est que les maisons disques ont tellement profité. Ils n'ont jamais baissé les ventes. S'ils auront baissé le coût d'un disque quand il fallait, on n'aura pas tous ces problèmes de téléchargement et tout ça. C'est une fausse idée. Et pour moi, je ne sais pas, que s'il y a une chose que j'ai senti arriver, que j'aimerais voir disparaître un peu, c'est la notion de célébrité. C'est la notion de il y a pas mal de gens aujourd'hui qui imaginent que leur talent, c'est leur ambition. Et qui oublient le concept de travail et d'artisanal et de maîtrisage, comment dire, l'apprentissage. Et à force d'être dans un monde de zapping où on peut changer son avis à 5 secondes et tout ça, ça ne nous apporte pas grand-chose. Moi, j'ai trouvé l'autre jour que je préfère écrire à la main parce que ça laisse exactement le bon temps pour réfléchir pendant que j'écris. Si je tape à la machine, je vais un peu trop vite, ça ne me donne pas la chance de réfléchir. Et aussi, quand tu écris, tu ne peux pas le rayer facilement. Alors, il faut penser, il faut peser les mots. C'est les petits trucs comme ça. Le ralentir juste un petit peu pour cerner les choses, parce qu'on aura besoin de ces valeurs.
Myriad, merci.
C'était long comme réponse. Merci aussi, Raymond.